Chapitre 3.
Le taxi s'arrête au bord du trottoir. La portière passager s'ouvre, je monte. Un souci ? Demande Muriel en désignant le poste de police. Je pensais l'attendre à l'intérieur pour qu'elle puisse donner son témoignage, mais ils m'ont carrément flanqué à la porte en me disant d'aller me faire soigner. Je suis resté 10 minutes à côté du panneau de stationnement interdit. Personne ne m'a prêté attention, à part le jeune homme qui venait de m'aborder pour me demander du feu. Je faisais semblant de chercher dans mes poches quand le taxi est arrivé. « Qu'est-ce qui se passe, Martin ?» Je secoue la tête, mords mes lèvres en retenant mes larmes. Un coup de sifflet sur le trottoir. On lui fait signe de circuler. Après une centaine de mètres, elle me demande où on va. « Écoutez, je ne veux pas que vous vous croyiez obligé. Il m'arrive une chose épouvantable, je me raccroche à vous, je suis désolé, mais je suis complètement seul. C'est une histoire hallucinante et personne ne m'écoute. Allez-y, je mets le compteur. C'est quoi le problème ?» Je prends ma respiration et lui raconte en quelques phrases ce que j'ai vécu depuis qu'elle m'a déposé devant chez moi. On nous klaxonne. Le feu est passé au vert, elle redémarre et va se ranger de l'autre côté du carrefour. Attendez, Martin. Ce type raconte qu'il est vous, il a des papiers à votre nom et votre femme vit avec lui. Oui ? Dis-je avec l'espoir que son ton dynamique va déboucher sur une explication miracle. Et personne dans votre immeuble ne vous reconnaît. Voilà. Elle se détourne et gratte un instant son volant avant d'ajouter sur la pointe de la voix le regard dans le pare-brise « Et vous sortez de 72 heures de coma après un coup sur la tête. » « Quel rapport ? Je suis le même qu'avant l'accident. Vous êtes témoin. Il n'y a que vous qui... » Je m'arrête. « Moi qui ? » m'encourage-t-elle, visiblement prête à accueillir tous les arguments en ma faveur. La gorge serrée, je fais non de la tête. Mon dernier espoir est tombé en poussière. Vous n'êtes témoin de rien. Je ne vous ai dit mon nom qu'à mon réveil. Tout ce que vous savez de moi avant l'accident, c'est que j'allais à Charles de Gaulle et que j'étais pressé. Son silence entérine l'objection que, de toute façon, elle aurait fini par formuler. Je sens très bien qu'elle ne peut croire qu'à une chose, ma sincérité. Et si je perds sa confiance, il ne me reste rien. Donc, apparemment, résume-t-elle, vous n'avez aucun moyen de prouver qu'il n'est pas vous. Et la conclusion, c'est quoi ? Dis-je avec une agressivité que je n'essaie même pas de masquer. Je suis amnésique ? Vous voyez bien que non, je suis le contraire d'un amnésique. Je me souviens absolument de tout. Peut-être que vous croyez vous souvenir et que vous avez oublié qui vous êtes en réalité. Elle a parlé d'une voix très douce, avec les précautions d'usage et la brutalité nécessaires, la voix qu'on emploie par honnêteté morale et respect humain pour faire comprendre à un malade qu'il est foutu. Puis elle pose la main sur mon bras et dit pour m'achever avec gentillesse « Ça arrive. » « D'accord. » Mon ton froid, déterminé, la fait sursauter. Je lui demande de me passer son portable. Elle me regarde composer le numéro qui m'est revenu sans aucun effort. Si on retournait à l'hôpital, Martin. Moi, je vous ai dit mon feeling, une hypothèse comme ça, mais je n'y connais rien. L'équipe de réanimation est peut-être déjà tombée sur des cas de ce genre.
Bien sûr, on sort du coma et pof, on se prend pour un autre. Avec ses souvenirs, son métier, son caractère, ses conflits.
Mais je ne demande qu'à vous croire, mais je ne peux pas comparer. Vous l'avez dit vous-même, je ne vous connaissais pas avant.
Pour mettre le haut-parleur, je fais quoi ? Elle appuie sur la touche verte. Une bande enregistrée nous invite à patienter en musique. Muriel, laissez-moi une chance de vous convaincre, là, en 2 minutes. Si je ne réussis pas, vous me ramenez à l'hôpital et on m'enferme, ok ?
Moi, c'est pour vous. American Express, bonjour, Virginie, à votre service.
Je suis le 49 37 08 43 12 75 00 9, validité 06 04.
Muriel me fixe avec attention. Je lui rends son regard en retenant mon souffle.
« Bonjour, monsieur Harris. »
Spontanément, on se sourit. Elle a l'air aussi rassurée que moi, délivrée d'un coup des doutes légitimes que je lui inspirais. Ça me fait du bien de voir qu'elle est si heureuse que je ne sois pas fou. Elle se sent encore responsable de mon accident, malgré tous les ennuis qu'il lui cause.
« Que puis-je pour vous ?» reprend le portable que je tiens entre nous. Sur la coudoir.
J'ai perdu ma carte, mademoiselle, je voudrais faire opposition et en recevoir une nouvelle.
Très bien, monsieur. Vous me permettez de vous poser quelques questions ?
Allez-y. Elle me demande mon lieu de naissance, la date, le nom de jeune fille de ma mère. Je réponds d'un ton naturel, dégagé, mécanique.
Votre résidence principale ?
255 Sawmill Lane, Greenwich, Connecticut. Mais je me trouve actuellement à Paris, 1 rue de Duras, dans le 8e.
C'est parfait. Désirez-vous recevoir votre nouvelle carte à cette adresse ?
Non, surtout pas !
Mon sursaut a fait tomber le portable. Muriel le ramasse, me le rend.
À quelle adresse, monsieur ?
Je l'interroge du regard. Elle hésite 5 secondes, articule lentement. Bloc Nouméa, Cité des Îles, Clichy 92-110, chez Muriel Caradé. Je répète ses coordonnées en la remerciant d'un plissement de paupières.
Et voilà, dis-je en posant le téléphone. Pardon de vous mettre à contribution. Dès que j'ai reçu ma carte, je vous invite à dîner dans le meilleur restaurant de Paris.
La chaleur de ma voix la refroidit aussitôt. L'euphorie qu'on a brièvement partagée, tandis que je lui prouvais mon identité tout en coupant les vivres à l'imposteur, laisse la place à une gêne d'un autre ordre. Elle s'imagine peut-être que je la drague. Je me demande comment dissiper le malentendu sans verser dans la muflerie.
Ça ne prouve rien, Martin.
Quoi donc ?
Je veux dire, ça ne prouve pas que vous êtes plus vrai que l'autre. Vous avez pu voir son numéro d'Amex et le mémoriser comme le reste de son état civil. Ce que vous venez de faire devant moi, je m'excuse, mais ça peut s'appeler aussi escroquerie à la carte de crédit.
J'écarte les mains et les laisse retomber, effondrées.
Comprenez-moi, je ne suis pas en train de vous traiter de menteur. Mais par rapport à la police qui ne vous croit pas, vous en êtes toujours au même point.
Je me laisse aller en arrière, ferme les yeux sur l'appui-tête. Elle ajoute qu'elle regrette, mais que le mieux est quand même de retourner à l'hôpital.
Je frappe soudain la coudoir. Mais pourquoi je ferais ça, merde ? Si mon but c'est de piquer une carte de crédit, pourquoi je ferais ça devant vous ? Alors qu'il me suffit de vous emmener à l'INRA de Bourg-la-Reine pour vous prouver en 5 minutes que je suis un botaniste connu aux États-Unis. On trouve mes travaux sur Internet, j'ai sûrement ma photo quelque part. Eh bien allons-y, s'énerve-t-elle à son tour. Et si ce n'est pas votre photo, vous direz qu'il a piraté le site. Vous avez une autre explication ?
Lançais-je, furieux qu'elle nous projette à l'avance dans une situation d'échec. Furieux qu'elle formule dans l'élan de sa logique une hypothèse que je n'avais même pas envisagée.
Oui, vous avez peut-être lu un reportage sur lui juste avant l'accident.
C'est ça, un reportage qui donnait son numéro d'American Express.
Oh, écoutez, Martin, je sais plus où j'en suis, moi. Je veux bien vous aider, mais il y a des limites.
Gare Montparnasse,
dit un type en entrant. Il s'assied sur la banquette, referme la portière. Muriel se retourne, lui dit qu'elle n'est pas libre.
Il pleut, répond-il. Ça fait 1 heure que je pourrais auto qu'un taxi ne s'arrête. Je vous en supplie, ne me laissez pas en rade.
C'est bon, dis-je en ouvrant ma portière. Prêtez-moi juste 1 euro que je prenne le bus. Je vous le rendrai dès que... Vous irez loin avec 1 euro.
J'ai mon train dans 20 minutes, s'impatiente le type. Je m'en fous, lui crie Muriel, je parle. Restez ici, vous,
enchaîne-t-elle en refermant ma portière.
D'accord, je vous emmène à Bourg-la-Reine et on le dépose à Montparnasse, c'est sur le chemin.
Le démarrage me plaque au dossier.
Merci, dit le client.
Tandis qu'elle slalome dans la circulation, il enchaîne les coups de téléphone pour rassurer ses correspondants, repousser l'heure de sa réunion à Nantes si jamais il rate son train. Le rythme de sa voix grasseyante qui répète à chacun la même chose, avec de simples nuances de déférence ou de supériorité, m'isole dans une bulle où j'essaie de faire le vide. Je ferme les yeux, je me laisse aller, je récupère. Entendre exposer avec autant d'énergie d'autres problèmes que les miens, dans leur insignifiance, a quelque chose de réconfortant.
À part votre site, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis ?
Je rouvre les yeux, constate avec amertume qu'un ou 2 kilomètres de réflexion ont suffi pour qu'elle rallie la cause adverse.
Muriel, c'est ma femme qui a tout monté. Je ne trouve pas d'autre explication. Elle a su mon accident, elle a cru que j'étais mort et elle a fait passer son amant pour moi.
C'était pas plus simple d'être veuve ? Je ne trouve rien à répondre et je continue mon raisonnement. Lise a pu m'effacer de sa vie conjugale, imposer son complice au voisin, mais ça s'arrête là. Il ne pourra jamais donner le change à Bourg-la-Reine. Un faux passeport et des souvenirs appris par cœur ne suffisent pas. On n'improvise pas 20 ans de recherche, d'exploration, de découverte. On ne peut pas me remplacer professionnellement du jour au lendemain. Paul de Kermer, le confrère qui m'a fait venir en France pour étayer ses thèses avec mes travaux, s'est entretenu des heures avec moi par mail. Il connaît toutes mes études sur l'intelligence des plantes. C'est impossible de l'abuser, lui.
Moins 5, génial, se réjouit le type à l'arrière. Je vous dois
19,10, répond Muriel en désignant le compteur qui tournait pour moi. Il lui donne 20 euros, lui dit de garder la monnaie et fonce dans la gare avec son attaché caisse. Elle me tend le billet. Je refuse. Elle me rappelle que je n'ai rien sur moi, précise que je lui rembourserai la course quand j'aurai reçu ma nouvelle carte. Le naturel avec lequel elle vient de reprendre mon parti me désarme. J'empoche le billet. Pardon de m'être énervé, Muriel. Elle sort de la boîte à gants une gaine en plastique gris, descend de voiture. Un petit choc sur le toit. Elle se rassied, me tend son portable. Puisque vous avez commencé à faire des dettes, pourquoi vous n'appelez pas en Amérique ? Votre famille ? Vos amis ? Mon père est mort, je ne sais pas où est ma mère. À part ma femme, je n'ai que des relations, des collègues. Et il est 4 heures du matin là-bas. Comme vous voudrez, dit-elle en farfouillant derrière son compteur. Mais ça me paraissait le plus simple. Vous me passez la personne, je lui donne votre description et je vois si c'est bien vous. J'avale ma salive, déçue qu'elle ait encore besoin de ce genre de confirmation. Mais elle n'a pas tort. Je lui demande si elle parle anglais. Un peu. J'appelle Rodney Cole, mon assistant à Yale. À la troisième tonalité, une voix de synthèse m'informe que la personne ne peut être jointe. Muriel me reprend le portable et l'éteint avec un soupir. Je peux essayer de réveiller quelqu'un d'autre ? Non, ça va. Maintenant, il est en mémoire. Je l'appellerai moi-même si j'ai un doute. Comme ça, je verrai si vous avez composé un numéro bidon. Elle redémarre. Je regarde la circulation tassée dans mon siège. Au bout d'un moment, elle pose la main sur mon genou. J'ai envie de vous croire, Martin. Mais je me suis fait tellement avoir dans ma vie. Quelle rue, à Bourg-la-Reine ?